Bien, je vous propose de commencer. Bonjour à tous, merci d'être là. Je salue dans la salle la présence de Jacques Pétry, le président du conseil d'administration d'Albioma, de Pierre Bouchu, le président du comité d'audit, administrateur, et de nos commissaires aux comptes, ainsi que quelques personnes d'Albioma que je remercie d'être là, et évidemment d'analystes, investisseurs, banquiers qui nous accompagnent. Bienvenue à cette présentation de nos résultats annuels 2018. Avec un sommaire que vous découvrez ici, je passe très rapidement aux faits marquants de l'exercice. Nous publions de très beaux résultats et il faut s'en réjouir. Donc c'est une belle année 2018 que nous venons de clôturer. Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont contribué à ces résultats très solides. Vous voyez les chiffres, vous en avez déjà pris connaissance ce matin à la publication de notre communiqué, des résultats en très forte hausse, plus de 18% de résultats nets par du groupe, plus 18% d'EBITDA. Fait marquant côté exploitation, c'est la mise en service du Galion 2, enfin, septembre 2018, gros investissement, et on y reviendra lors de la présentation. C'est la mise en service également, un peu plus récemment, contribution année 2019 de mes faits marquants opérationnels de la turbine à combustion du Galion, de Saint-Pierre à La Réunion, qui est une turbine qui fonctionnera au bioéthanol, donc également énergie renouvelable. Et c'est la signature, et ça c'est très important en 2018, c'est la signature du premier avenant qui matérialise la conversion du programme, le début du programme de conversion de nos centrales biomasse, de nos centrales charbon en centrales biomasse, ou de nos centrales bagasse charbon en centrales bagasse biomasse. Nous avons 9 tranches thermiques, 6 à La Réunion, 3 à la Guadeloupe, et ce dernier point en bas à gauche de cette diapositive matérialise la signature de la conversion de la première de nos 9 tranches thermiques. Et il s'agit d'une tranche 100% charbon qui va devenir 100% biomasse. Tout ceci, avec les gros efforts que nous avons faits sur le développement, nous a permis d'ailleurs, et c'est un fait marquant de l'exercice 2018, de faire passer le pourcentage d'énergie renouvelable dans notre mix, quand on prend la photo au 31 décembre 2018, à 62%, et j'y reviendrai dans cette section. Côté développement, en fin d'année, acquisition d'une société qui s'appelle Eneco France, filiale de Eneco électricien néerlandais, 17 MW installés. Alors attention, ce n'est pas n'importe quel 17 MW, c'est 17 MW qui vendent de l'électricité à un tarif de l'ordre de 300 euros du mégawattheure. Donc ce sont 17 MW qui valent peut-être un équivalent aujourd'hui quand les tarifs sont de l'ordre de 50 ou 60 euros du mégawattheure. Vous faites les multiplications pour avoir des mégawatts équivalents de ce qu'annoncent les gens qui annoncent en ce moment des mégawatts sur le marché. Quand on vend à 300 euros du mégawattheure, on vend globalement 6 fois plus cher que quand on vend à 50 euros du mégawattheure. Donc c'est 17 mégawatts qui valent 6 fois 17 mégawatts. Attention, on compte nous en euros et pas trop en mégawatts, mais il faut quand même se le rappeler. Deuxième élément important en 2018, on a finalisé l'acquisition de l'unité qu'on appelle maintenant Esplanada, pour ne pas la confondre avec la première qui s'appelle Codora, puisqu'elles appartiennent toutes les deux au même groupe, qui s'appelle Jales Machado, qui est un groupe brésilien basé dans l'état du Goiás, à côté de Brasilia, à 3 heures de route de Brasilia, un état cannier important dans lequel nous avons désormais 2 usines en exploitation et qui contribuent aux résultats du groupe sur 2019. Et enfin, nous avons nettoyé notre portefeuille en cédant, dans de bonnes conditions, la méthanisation qui nous avait fait perdre un petit peu d'argent, et c'est une litote, au cours des dernières années. Donc désormais, nous sommes focalisés sur nos deux métiers, la biomasse, d'une part, thermique, c'est-à-dire la combustion de la biomasse, et d'autre part, le solaire. Côté actionnariat, nous avons émis en fin d'année des bons de souscription d'actions. Et l'opération a été un succès, réservée à 42 salariés de la direction du groupe. L'opération a été sursouscrite J'y ai moi-même participé et l'opération s'est très bien déroulée. Et enfin, nouvelle importante d'un point de vue actionnarial, nous avons accueilli en décembre également Impala, qui est la holding de contrôle de M. Jacques Vera, qui a racheté le solde de la participation d'Altamir, 5,5% du capital, et qui aujourd'hui détient environ 6% du capital. Donc, l'overhang que représentait la participation résiduelle d'Altamir à notre capital a désormais disparu. Nous avons trois grands actionnaires qui comprennent et endossent notre stratégie et qui sont là sur un horizon de temps plutôt long, que sont la BPI, d'une part, avec 5% du capital, COFEP, qui est la compagnie financière européenne de participation, qui est la holding qui détient des marques comme la Martiniquaise, Bardinet, Dillon, De Paz, Saint-James, qui distribue Porto Cruz, etc., etc. Bref, distribution de spiritueux en France métropolitaine et qui est notre partenaire dans les Antilles également. Et troisième actionnaire désormais, connaissant parfaitement le monde de l'énergie, Impala. Tous les trois d'ailleurs, globalement à parité entre 5 et 6% du capital. Voilà pour ces faits marquants. À nouveau, j'insiste, des très beaux résultats je m'en réjouis avec toute l'équipe. Je vais passer rapidement parce que je vois que vous connaissez, je vois dans le public beaucoup de têtes connues, donc je sais que vous connaissez notre positionnement stratégique. Je passe très rapidement sur cette diapositive qui est notre carte d'identité. Qui sommes-nous ? Nous sommes engagés dans la transition énergétique avec nos deux métiers que sont la biomasse et le photovoltaïque. Nous exerçons ce métier de la biomasse avec un partenariat spécifique dans le monde sucrier pour produire de l'énergie renouvelable et pour essayer de le faire dans d'excellentes conditions, à la fois en termes de rendement énergétique et en termes d'efficacité environnementale. Nous sommes également le premier producteur de photovoltaïque dans les DOM et nous continuons notre développement à l'international. Les chiffres peut-être à noter que vous ne reverrez pas ailleurs. En bas à droite de ce carré, 120 kWh par tonne de canne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand une tonne de canne entre dans les sucriers, dans les sucreries auxquelles nous sommes adossés dans les départements d'outre-mer, il en sort généralement évidemment du jus pour faire du sucre, à peu près 10% du volume de la canne. Une tonne de canne produit environ 100 kg de sucre. Et puis, il en sort également un résidu fibreux qui est composé de fibres et d'eau, 50% d'eau, 50% de fibres, un petit peu comme de la paille quand on va récolter du blé. Et cette paille, qui s'appelle de la bagasse, elle est brûlée dans nos chaudières. Et avec cette paille, nous arrivons à satisfaire les besoins en énergie du sucrier qui a besoin de vapeur et d'électricité pour produire son sucre. Et nous arrivons également, compte tenu de l'efficacité du cycle thermodynamique, à exporter, c'est ce que veut dire ce vocable ici, l'énergie excédentaire sur le réseau d'électricité. Donc nous vendons, notre métier c'est bien de vendre cette électricité générée en excès après avoir servi les besoins du client sucrier sur le réseau électrique. Et ce 120 kWh, il est élevé, c'est une compétence spécifique du groupe. Il se compare par exemple à une moyenne dans l'industrie sucrière brésilienne, qui est le premier pays producteur de sucre au monde, de l'ordre de 50. Donc au Brésil, et c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé d'y aller, les cogénérations adossées à des sucreries, en moyenne, quand elles sont raccordées, quand les sucreries sont elles-mêmes raccordées au réseau, en moyenne exportent 50 kWh par tonne de canne. Donc ce 120 kWh, c'est notre métier dans la valorisation à haute efficacité énergétique de la bagasse. Voilà, on a mis par ailleurs un indicateur de disponibilité sur nos centrales solaires, 99,5%. Alors, dans le solaire, la disponibilité est un indicateur intéressant. Il y a d'autres indicateurs plus pertinents que sont, par exemple, le ratio de performance, mais qui sont plus compliqués à expliquer au grand public. Donc, on a mis la disponibilité, mais il est moins pertinent, peut-être, que le 120 kWh par tonne de canne. Ça veut dire que nos centrales, globalement, elles tournent bien. Mais ça ne veut pas forcément dire que leurs performances sont optimales en termes de rendement par rapport à un attendu théorique. Je suis désolé, là je rentre un petit peu dans les détails techniques pour ceux qui connaissent bien le métier. Mais il faut quand même se féliciter de ce pourcentage, étant entendu que la disponibilité dans le solaire, quand on est en dessous de 99,5%, on n'est vraiment pas bon. Hein, alors que dans le thermique, quand on est entre 89 et 92%, on est plutôt très bon, parce qu'une usine thermique, elle s'arrête déjà entre 6 et 8 semaines par an. Donc la disponibilité, c'est le temps durant lequel la centrale est disponible pour produire de l'énergie. Hein. Défalquer des épisodes de maintenance. Notre footprint, pour parler comme les anglo-saxons. Alors, on compte en mégawatts, là, une fois n'est pas coutume. Ça, c'est un nouveau chiffre. 910 mégawatts installés à travers le monde. On s'approche du giga, doucement. Hein. Mais vous voyez que nos agrégats financiers croissent plus vite que notre puissance installée. Donc, il est bon de compter en euros. Vous avez ici trois grandes régions. L'océan Indien, en termes de puissance installée, avec La Réunion et Maurice, et une trentaine de mégawatts de solaire. Les Antilles-Guyane, avec 182 mégawatts installés, donc essentiellement dans le thermique, en Guadeloupe et Martinique, et également une trentaine de mégawatts dans le solaire. Et pour ce qui concerne le thermique, le Brésil, avec 168 mégawatts installés. Troisième pôle solaire désormais nouveau et au même poids que les deux autres, Antilles et Réunion, la France métropolitaine, avec aussi une trentaine de mégawatts installés. Et vous voyez en haut à droite de ce transparent les parts de marché. On est un acteur important des territoires dans lesquels on opère, 45% d'énergie produite à La Réunion, 42% à Maurice, 30% en Guadeloupe. En Martinique, à partir de l'année prochaine, on devrait être aux alentours des 15%, ce qui est très significatif. Ceci pour illustre l'attention qui est portée justement à la disponibilité de nos outils de production, puisque quand nos outils ne sont pas disponibles, le réseau électrique des îles sur lesquelles nous sommes souffre. Donc notre métier est de produire dans de bonnes conditions et de valoriser au mieux la ressource que nous utilisons et d'être disponible le plus possible en termes de nombre d'heures de fonctionnement par an. Ce positionnement et ce métier de nos deux jambes thermiques et solaires se déclinent avec une stratégie qui est basée sur trois piliers, et j'y reviendrai, je commenterai ces trois piliers. Un, la transition dans les DOM. Deux, le déploiement de notre modèle que je viens de vous décrire à l'international. Et trois, le solaire. La transition dans les DOM, ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement remplacer le charbon que nous utilisons, puisque nous avons des centrales qui sont bagasse charbon, par de la biomasse. En donnant la priorité aux biomasses locales, et ça c'est fondamental, et en recourant en complément à de la biomasse qui sera importée. Nous n'avons aucun problème avec l'importation de biomasse. Nous travaillons en priorité sur les biomasses locales qui contribuent à augmenter le pourcentage d'autonomie énergétique des îles dans lesquelles nous sommes. Et nous considérons, et pas que nous d'ailleurs, le gouvernement, le cadre réglementaire globalement généralement établi, qu'il est préférable d'importer du bois sous forme de granulés plutôt que de charbon dans ces îles où nous assurons un volume de production très significatif. Deuxième axe d'accompagnement de la transition dans les DOM, c'est la montée en puissance de la production 100% renouvelable avec des nouveaux projets, et on y reviendra. C'est l'exemple de Galion 2, c'est celui de la TAC turbine à combustion de Saint-Pierre, ainsi que des projets solaires. Et enfin, dernier élément, c'est le travail sur la valorisation des combustibles solides de récupération. C'est un acronyme un petit peu barbare qui veut dire en réalité le fait d'être en mesure de valoriser dans des chaudières dédiées sur nos sites de production les résidus après tri à haute valeur ajoutée énergétique du traitement des ordures ménagères. Donc, dans le cadre de la chaîne de traitement des déchets, certains des territoires vont donner la priorité à la valorisation matière et au tri. Donc il va y avoir probablement la construction d'unités de tri mécano-biologique des déchets et sortent de ces plateformes de tri après recyclage ce qu'on appelle un combustible. Donc on transforme un déchet en un combustible et ce combustible, il est valorisable, il a un pouvoir calorifique et il est utilisable dans nos centrales, ce qui permet également d'aller vers plus d'autonomie et d'importer moins de biomasse. Un petit focus sur la transition. Vous avez à droite de ce slide le photomontage de l'aménagement du quai en Guadeloupe post-investissement dans la conversion sur Albioma Caraïbes. Vous avez là le quai de déchargement avec les trémies de déchargement et au fond une trémie qui va dans une espèce de bulbe blanc qui est un dôme de stockage de la biomasse. Juste à côté, le bâtiment en triangle, c'est notre bâtiment actuel de stockage charbon. Juste pour expliquer que cette opération de conversion de nos centrales dans les dômes, elle passe par un ajustement des dispositifs de réception de la biomasse au port, elle passe par un ajustement des dispositifs de transport et elle passe évidemment par des investissements sur site, à la fois de stockage et d'amélioration des capacités de combustion de nos centrales qui aujourd'hui brûlent du charbon et de la bagasse et qui demain brûleront du charbon et de la biomasse. Et comme brûler de la biomasse sous forme de pellets ou de biomasse locale, ce n'est pas tout à fait la même chose que brûler du charbon, il faut qu'on ajuste de façon marginale, mais quand même, d'un point de vue technique, ce n'est pas complètement anodin, il faut qu'on ajuste nos dispositifs de combustion. Donc là, vous avez la partie, et c'est symptomatique et intéressant, et c'est visible et compréhensible par tous, d'aménagement du terminal portuaire en Guadeloupe. Nous envisageons de sortir et d'abandonner complètement le charbon à horizon 2023. Ça, c'est un message fort. Complètement. Il n'y aura plus de charbon, c'est notre objectif et notre ambition, à horizon 2023 dans les DOM. Nous aurons donc converti d'ici là la totalité de nos 9 tranches thermiques. Nous nous attacherons à faire ce mouvement de conversion en valorisant de la biomasse, je vous ai dit tout à l'heure, en donnant la priorité à la biomasse locale, et au-delà, en valorisant de la biomasse qui soit traçable et durable, qui réponde donc à la fois les procédures de traçabilité en conformité avec ce qu'on appelle le règlement bois de l'Union européenne et qui soit durable, c'est-à-dire qui obéisse à certains critères que l'on va s'imposer, type FSC ou PEFC. Et nous avons un objectif d'approvisionnement en biomasse locale à terme de l'ordre de 30 à 40%. Donc là où aujourd'hui nous sommes avec du charbon importé et de la bagasse, demain, nous serons avec de la biomasse locale ou importée et de la bagasse. Et le tout en biomasse locale représentera environ 30 à 40% du mix. Sur la substitution du charbon dans la centrale Albioma Caraïbes, avenant signé en 2018, chiffre important, cette substitution permettra de faire passer le pourcentage d'énergie renouvelable en Guadeloupe de 20 à 35% et de réduire nos émissions nettes de CO2 de plus de 85%. Ce chiffre n'est pas sorti du chapeau. C'est un chiffre sérieux qui a été audité et validé par des auditeurs tiers. Et donc la réduction des émissions de CO2, j'en profite pour le dire ici parce que je pense que c'est important, ce n'est pas uniquement la réduction des émissions de CO2 liées au fait qu'on substitue le charbon par de la biomasse et que la biomasse étant considérée comme un combustible renouvelable, elle a capté le CO2 durant sa croissance qu'elle émet pendant sa combustion, donc émission zéro. Ce chiffre-là intègre également les émissions de CO2 pendant toute la chaîne d'approvisionnement. Donc on a tout compté et on compare des choses comparables, les émissions liées au charbon et les émissions liées à la biomasse, compte tenu du transport, des opérations et de la consommation d'énergie dont on a besoin pour fabriquer cette biomasse et transformer les granulés de bois en pellets, et également le transport entre le port et la centrale. Donc toutes les émissions ont été considérées lorsque l'on annonce que la réduction des émissions de CO2 sera supérieure à 85%. Deuxième pilier de notre stratégie, le déploiement à l'international. Vous savez qu'on est très fort et très présent à Maurice, avec 3 centrales en exploitation et un projet en cours de développement. Nous avons ouvert le Brésil depuis 2013. Je vous ai parlé, vous le voyez ici, des rendements moyens 40 à 50 kWh contre 120 kWh dans nos centrales. C'est la raison pour laquelle une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'ouvrir le Brésil, où il y a par ailleurs 700 millions de tonnes de canne. Je rappelle, il y a 2 millions de tonnes de canne à la Réunion. Ça vous donne une idée de la profondeur du marché. Nous avons aujourd'hui 3 centrales qui contribuent aux bornes du groupe Albioma. Nous avons un autre projet en cours de construction qui devrait contribuer d'ici l'année prochaine aux bornes du groupe également. Notre objectif est d'atteindre la taille critique. Nos opérations au Brésil se portent bien. Nous souhaitons évidemment capitaliser sur le retour d'expérience. Et nous avions annoncé un projet tous les 12 à 18 mois et nous avons l'intention de continuer ce rythme de croissance. Et de poursuivre également notre expansion dans d'autres géographies avec une approche projet, par exemple, en partenariat avec des sucriers avec lesquels nous sommes déjà en affaires. Enfin, troisième axe de notre stratégie, le solaire. Nous sommes le leader du solaire en Outre-mer avec 17% de part de marché. Nous avions remporté en 2016 et 2017 de l'ordre de 10 MW sur des projets photovoltaïques avec stockage que nous sommes en train progressivement de mettre en service. Nous avons mis en service il y a quelques jours un projet d'un mégawatt sur le Grand Port Maritime à La Réunion. C'est la photo que vous avez en bas à droite. Donc un projet avec stockage. Nous construisons un projet de 3,3 MW à Sainte-Rose en Guadeloupe sur un centre d'enfouissement de déchets. Et nous avons signé en 2018 un partenariat avec une société de HLM, la société des HLM de La Réunion, pour équiper la totalité des toitures de leur parc immobilier. Ça fait 5 MW. Ça veut dire 50 projets sur 50 toitures différentes. Projet sur toiture, projet de niche et stratégie de développement focalisée sur des projets à plus forte valeur ajoutée que des projets solaires classiques de grande taille en métropole ou ailleurs. Fait marquant de l'année 2018, l'acquisition d'Eneco, j'en ai parlé. Nous avons fait le choix de revenir en métropole, d'intensifier notre présence en métropole. Et avec Eneco, nous achetons un positionnement qui est compatible avec le nôtre dans les DOM, des petits projets sur toiture innovants, avec également une compétence sur l'autoconsommation. Nous achetons une équipe. Nous avions personne en métropole pour développer nos projets. Nous avons désormais 12 personnes et cette équipe recrute et a pour mission de continuer à développer. Et évidemment, nous achetons un portefeuille que nous entendons développer. C'est ça le rationnel de la transaction, même si j'aime pas tellement ce mot. Alors là, nous avons une vidéo à vous montrer sur le solaire. Ça, c'était pré-acquisition Eneco. Et cette vidéo s'inscrit dans un cycle de vidéos que nous diffusons sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à vous abonner au compte Facebook, LinkedIn. Et qu'est-ce que c'est le Twitter de Albioma. Hein, donc on est présent sur les réseaux sociaux. Il faut vous abonner, il faut nous suivre. On a un plan de communication qui est assez fort, qui est très suivi notamment, qui nous permet de gagner des abonnés dans les zones dans lesquelles on est, une stratégie de communication intéressante. Et donc cette vidéo fait partie d'un cycle de vidéos pour raconter un petit peu ce que c'est que l'énergie solaire, mais il y en a d'autres qui viennent expliquer le positionnement stratégique d'Albioma dans les DOM, la valeur ajoutée de l'énergie biomasse. Je vous invite à les regarder, à vous connecter et à les liker. Voilà. Donc, bon, alors toute cette stratégie, et ça c'est très important, elle nous permet, à, quand on prend la photo au 31 décembre 2018, d'atteindre 62% d'énergie renouvelable dans notre mix. Donc vous voyez l'inversion de tendance par rapport à 2013, et vous voyez la cible. Et je vous ai dit qu'on ambitionnait de convertir la totalité de nos tranches charbon en tranches renouvelables. Donc désormais, la cible, c'est plus de 80% d'énergie renouvelable en 2023. Hein. J'ajoute que les 62%, c'est la photo au 31-12-2018. Donc c'est un pro forma année pleine, avec la contribution de Esplanada Jalès et de Albioma Solaire France Exeneco, et en ayant retiré du calcul les gigawattheures, la vingtaine de gigas qui a été produite par Metaneo, puisque Metaneo est sorti du périmètre. Donc c'est une vision périmètre stabilisée au 31 décembre 2018. Cette évolution du mix, évidemment, elle procède des trois facteurs importants que je vous ai décrits: la conversion, la construction de nouveaux moyens 100% renouvelables et notre développement au Brésil, où nous sommes sur des centrales également 100% bagasse. Voilà, je vais laisser la parole à Julien sur la performance opérationnelle et les chiffres.
Bonjour à tous. On va commencer par présenter la performance opérationnelle de la France et par l'activité biomasse thermique. Alors, l'année 2018 a été marquée par quatre grandes réalisations sur la biomasse thermique. Année très, très dense. Première réalisation et chantier très important sont les investissements liés à la mise en conformité IED. Je rappelle que ça représente de l'ordre de 275 millions d'investissements entre 2016 et 2019, donc c'est un programme qui est engagé depuis 3 ans. Or, Albioma Caraïbes, qui fait l'objet d'un traitement spécifique, puisque les investissements IED seront réalisés en même temps que la conversion biomasse entre maintenant et début 2020. On a avancé sur les travaux IED sur les tranches de La Réunion au cours de l'année 2018, et pour vous donner une image claire à fin 2018, il nous reste 3 tranches de travaux, essentiellement sur les Antilles, au Moule, et une dernière tranche sur Albioma Bois-Rouge à La Réunion, à finaliser d'ici fin 2019, puisque l'objectif est d'être en conformité avec la norme IED au 1er janvier 2020. Deuxième événement important sur le thermique, c'est la signature d'un avenant conversion d'Albioma Caraïbes. Frédéric en a parlé. L'information nouvelle, hein, c'est qu'on donne le chiffre qui représente 70 millions d'investissements nets de crédit d'impôt. Les travaux, les commandes ont commencé et on prévoit de finir l'ensemble de ces travaux au premier semestre 2020. Albioma Galion, il ne vous aura pas échappé qu'on a fini par mettre en service cette centrale. Quelques commentaires qualitatifs. Le premier mois d'octobre a été un mois d'ajustement technique avec quelques indispos liés à des réglages. La fin d'année a été très bonne, voire excellente sur Galion 2, puisqu'on a eu une disponibilité sur les 6 dernières semaines de l'année, notamment en décembre, de 100%. Hein. Ce qui explique aussi qu'on finit un petit peu mieux que ce qu'on escomptait au niveau du groupe sur la fin de l'année. Et enfin, dernière réalisation importante. Alors là, on triche un petit peu, puisqu'il s'agit d'une réalisation qui a basculé sur 2019. On a mis en service l'investissement Albioma Saint-Pierre, la turbine à combustion bioéthanol située à La Réunion. On a mis en service cette centrale le 25 février 2019 avec quelques semaines de retard. Une partie de ce retard est expliquée peut s'expliquer par le mouvement des Gilets jaunes qui a empêché pendant quelques semaines nos fournisseurs de General Electric de joindre le site. Pour vous donner quelques images, on a prévu également une vidéo sur ce projet. Voilà pour cette très belle turbine à combustion. Donc, quelques mots sur la performance opérationnelle de notre activité biomasse thermique. Donc, on a une disponibilité qui s'établit à 87,9% comparé à 89,6% l'année dernière. La disponibilité a été marquée par les arrêts programmés liés aux réalisations des travaux IED dont j'ai parlé. Et je rappelle que pendant ces arrêts, qui durent en moyenne 8 semaines, nous sommes compensés contractuellement par EDF. Donc, retraités de ces arrêts, notre disponibilité avoisine 90% et est en ligne avec nos objectifs communiqués de 90-92% de disponibilité cible. On a eu quelques incidences techniques cet été sur la centrale d'Albioma Bois Rouge qui sont résolues depuis, mais qui nous ont à plusieurs reprises perturbé sur cette centrale. Et enfin, et je l'ai indiqué, on a une très très bonne disponibilité des centrales antillaises et en particulier de Galion 2 sur la fin d'année. La production s'établit à 1874 gigawattheures. Elle est en baisse pour deux raisons. Une disponibilité qui baisse et deuxièmement, on constate depuis quelques années une érosion des taux d'appel de nos centrales, en partie compte tenu de la percée des autres énergies renouvelables sur ces territoires. Le solaire extrêmement stable, un nombre d'heures équivalent pleine puissance à 1229 et une production électrique de 92 gigawattheures, quasiment en ligne avec l'année dernière. On a eu des conditions d'ensoleillement un petit peu moins favorables sur l'océan Indien. Les grands événements sur le solaire sont extra-opérationnels. On a signé un financement de 110 millions qui consistait en un refinancement et une ligne de croissance pour financer tous les projets de la zone sur les trois prochaines années. On a signé, Frédéric en a déjà parlé, un partenariat stratégique sur la société de gestion des HLM de La Réunion. Et on est en pleine construction de plusieurs projets. Grand Port Maritime vient d'être mis en service, Sainte-Rose, Stade de l'Est, à La Réunion. On a également des projets qui ne sont pas mentionnés ici sur Mayotte. La grande nouvelle 2018 sur solaire, c'est l'acquisition d'Eneco avec cette équipe de 12 personnes à Avignon qui va nous permettre de fortement accélérer nos investissements sur ces territoires et sur la France métropolitaine. Île-Maurice, nous détenons trois centrales à 25%, donc ces centrales sont mises en équivalence. On avait communiqué sur un incident au premier semestre sur notre centrale d'Othéo-la-Baraque qui explique le taux dispo qui est moins bon que les années précédentes à 85,4. Le deuxième semestre a été de très bonne facture et on a bien terminé l'année sur ce territoire. Je vais repasser rapidement la parole à Frédéric pour le Brésil avant de vous commenter les résultats.
Alors, le Brésil, vous avez la carte. Vous voyez la localisation des deux unités de Jales Machado, là, en haut à droite, à côté du carré gris, dans le géo pour Goiás. sachant que le plus gros état de producteur de canne, c'est le SP, l'état de São Paulo, où se trouve la première unité que nous avions acquise en 2014, Rio Pardo. Le petit carré gris dans le Géo, c'est Brasilia. C'est pour ça que je vous disais qu'on n'était pas très loin de Brasilia. La frise historique, vous la connaissez, je ne vais pas la commenter, si ce n'est pour dire que le Brésil est et demeure une priorité à l'international pour nous et que notre objectif est d'atteindre la taille critique le plus rapidement possible. La taille critique, pour nous, c'est deux choses. C'est la capacité, évidemment, à amortir les dépenses de siège liées à notre développement au Brésil. Et c'est surtout la capacité à générer suffisamment de cash en monnaie locale pour ne plus avoir à envoyer des euros pour financer la croissance du groupe, c'est-à-dire pour financer la 6e, 7e, 8e acquisition. Les indicateurs macroéconomiques du Brésil, je pense que vous les connaissez. Le real a continué à se dégrader au cours de l'exercice 2018 avec un taux de change à 4,30 en moyenne contre 3,60 l'an dernier. Et c'est d'ailleurs cette dégradation du change qui explique la moins bonne contribution au niveau de l'EBITDA du Brésil, puisque en monnaie courante, nous avons une contribution stable dans la mesure où nous étions à isopérimètre. L'inflation est restée assez faible par rapport à des standards brésiliens. Le taux d'intérêt est resté très faible avec 6,4% fin 2018 contre 6,9% fin 2018. Donc vous voyez que ça fait fin 2017, pardon. Donc ça fait un taux réel, hein, la différence entre 6,4% fin 2018 et 3,8% fin 2018 qui est bas. Au Brésil, qui n'a jamais été aussi bas de façon surprenante, et il n'y a pas exclu qu'il remonte. Et enfin, indicateur important à avoir en tête, même s'il a peu d'impact pour nous, compte tenu du fait que nous sécurisons l'essentiel de nos ventes d'énergie sur le marché réglementé, c'est le spot, donc le prix spot de l'électricité, qui est resté très élevé, avec une moyenne à 290 reais en 2018 contre 325 l'an dernier. Ce prix spot élevé nous permet de procéder à des opérations d'arbitrage et éventuellement à liquider la production que nous n'avons pas liquidée sur le marché réglementé. Il est intéressant qu'il soit élevé parce qu'il nous permet également, dans le cadre des opérations d'acquisition éventuelles, de mieux valoriser les actifs. C'est plus facile de valoriser un actif quand le prix de l'énergie de référence, qui est le prix spot, est élevé que quand il est au piso, comme disent les Brésiliens, c'est-à-dire au plancher réglementaire. Ce prix spot, il peut varier réglementairement entre 300 et 500 environ. Donc, vous voyez qu'il n'était pas très loin et c'est une moyenne. Donc en réalité, cette moyenne, elle veut dire quoi ? Elle veut dire que pendant la période de coupe de la canne, qui est la période sèche, généralement le spot est au plafond, de l'ordre de 500, et puis il baisse en dessous de cette moyenne pendant la période humide. Et la moyenne fait 290, mais il faut beaucoup se méfier des moyennes au Brésil. De manière générale, il faut se méfier des moyennes. Brésil, donc la production, vous voyez, qui est relativement stable à 238 gigawatt-heure en 2018, avec un rendement énergétique qui est bon, 80. Ce rendement, je vous ai dit tout à l'heure, 120 kilowatt-heure dans les DOM et 40 au Brésil. Sur les deux usines aujourd'hui qui contribuent, quand nous sommes arrivés, il était de l'ordre de 40. Et ce que dit ce chiffre, c'est finalement que nous avons fait ce que nous avions annoncé au moment de l'acquisition des centrales brésiliennes. Nous avions dit que nous allions doubler l'efficacité énergétique, et c'est ce qui a été fait et sur Rio Pardo et sur Codora. On est passé de 40 à 80. Si vous reprenez nos présentations d'il y a quelques années au moment de l'acquisition de Rio Pardo, vous verrez qu'on s'était fixé comme objectif 80 kWh par tonne de canne. C'est ce qui est fait. Ça, c'est la performance technique opérationnelle de nos outils. C'est ce qui fait que Albioma est désormais vu et considéré comme une entreprise sérieuse au Brésil, que la marque Albioma est reconnue, et c'est ce qui fait que nous sommes confiants sur notre capacité à continuer à développer notre activité au Brésil. La canne globale, 3,1 millions en 2017, 2,7 en 2018, a été inférieure à celle, donc sur 2018, inférieure à celle qui a été livrée en 2017, essentiellement du fait d'une situation à Rio Pardo pas bonne. Et notre partenaire, qui s'appelle Usina Rio Pardo, donc c'est le sucrier, s'est placé en régime de protection spécifique de redressement judiciaire, donc pour principalement régler un problème de bilan. D'un point de vue opérationnel, l'usine continue à tourner, mais ce régime permet de suspendre les remboursements d'une dette trop importante côté Rio Pardo. Cette dette trop importante, elle empêche également Rio Pardo d'investir à la hauteur de ce qu'elle devrait faire dans les champs. Je rappelle que le cycle de la canne au Brésil, c'est à peu près 6 ou 7 ans. Donc, tous les ans, vous devrez replanter un sixième de votre sol cannière pour éviter que votre canne ne vieillisse et que le rendement à l'hectare ne baisse. Donc, pour maintenir votre compétitivité, la production de sucre nécessite des investissements lourds. Le métier du sucre, c'est un métier intense d'un point de vue capitalistique. Et quand les usines, comme celle de Rio Pardo, sont trop endettées, la première des choses qu'elles commencent à couper, c'est les investissements dans le champ. Et donc, elles laissent leur canne vieillir. Et comme la canne vieillit, le rendement à l'hectare baisse et le nombre de tonnes de canne qui arrivent à l'usine diminue. Donc, notre volume de bagasse diminue. Donc, nous produisons moins d'énergie. C'est ce qui nous a d'ailleurs conduit, ça n'apparaît pas dans les comptes, mais je le dis avant que Julien ne le mentionne, à passer une provision dans nos comptes de dépréciation partielle de nos équipements par prudence pour tenir compte du fait que sur l'année 2018 et probablement 2019, on aura des volumes de canne livrés et arrivant à l'usine inférieurs à ceux qui avaient été prévus à l'origine. Côté prix de vente, j'en ai déjà parlé, le prix est élevé. On a un prix de vente moyen à 320 reais du mégawatt-heure et c'est la conjugaison de nos contrats très long terme et des opérations d'arbitrage que nous réalisons sur le marché court terme quand nous avons de l'énergie à vendre qui n'est pas vendue sur le marché réglementé. Et enfin, d'un point de vue opérationnel, on a mis en œuvre une troisième turbine à Codora qui a été mise en service en décembre 2018. Et c'est grâce à cet investissement qu'on va pouvoir bénéficier de prix sur le marché réglementé encore supérieurs. Projet en cours de construction Esplanada. Excusez-moi. Acquisition de... Donc 2018, finalisation de l'acquisition de Esplanada, donc la deuxième unité de Rio Pardo. Là, il s'agit de rénover les chaudières existantes et d'installer une nouvelle turbine. C'est pareil, l'idée est de doubler la production. Cette usine a exporté ou aura exporté en 2018 de l'ordre de 80 gigawattheures, entre 70 et 80 gigawattheures. Et vous voyez que notre objectif, c'est 145 gigawattheures sur la campagne 2019. Donc là aussi, on est dans la même logique d'amélioration de l'efficacité énergétique. En revanche, j'anticipe la déception, on ne sera pas à 80 kWh par tonne de canne sur cette usine, puisque les caractéristiques techniques, notamment la pression des chaudières, est inférieure. Donc on ne sera pas sur des chaudières haute pression, on va être sur des chaudières dites de moyenne pression. Néanmoins, les travaux réalisés et la maîtrise de l'outil nous permettent d'envisager un doublement de la production. Et enfin, projet en cours, voilà, j'y arrive. Vallée do Paraná, là, c'est un projet qu'on détiendra à 40%. Là, c'est un projet de revamping complet d'une centrale de cogénération avec revamping de la chaudière, installation d'une nouvelle turbine et raccordement au réseau, 17 km de ligne que nous tirons dans l'état de São Paulo. Un investissement niveau CAPEX de construction de 100 millions de reais. Et c'est donc la première usine sur laquelle nous construisons, nous mettons à profit nos compétences d'ingénierie. Nous construisons les autres usines, nous étions plutôt sur de la reprise d'actifs brownfield. Là, on est sur un brown green, puisqu'il y a déjà quelque chose, mais il faut considérablement le remanier, installer une nouvelle turbine. J'ajoute que sur tous les projets du groupe, et y compris sur celui-là à ce stade au Brésil, nous avons plutôt des bonnes surprises. Donc nous sommes en capacité de maîtriser les budgets et les délais sur ces projets, ce qui est une bonne chose dans un pays aussi compliqué que le Brésil. Voilà. Julien, les chiffres.
Alors, les résultats financiers. Donc, si on doit résumer notre année en trois points, pourquoi on a cru de 18% au niveau de l'EBITDA, la première raison, est la contribution supplémentaire liée aux avenants de mise en conformité IED et à toutes les tranches qu'on a réceptionnées en 2017 qui ont un effet année pleine 2018 et en cours d'année 2018. La deuxième raison, c'est la mise en service de notre centrale Galion 2 qui a commencé à contribuer sur le dernier trimestre. Et enfin, sur le Brésil, si on regarde hors effet de change, on est en ligne avec l'année dernière. Ces chiffres n'intègrent pas la méthanisation. Nous avons cédé Méthanéo en fin d'année. Donc ces chiffres excluent, les chiffres 2018 excluent la méthanisation. Par contre, le 2017 publié inclut la méthanisation. Pour faire simple, la méthanisation, c'était 4 millions de chiffres d'affaires, 0 d'EBITDA, 0 de RNPG. Si on entre dans le détail du chiffre d'affaires, donc on a un chiffre d'affaires en hausse de 6%. On a bénéficié d'un effet de prix combustible favorable. C'est la première brique que vous voyez en vert clair sur la gauche. Effet prix favorable de 9,8 millions d'euros lié à la hausse continue des cours du charbon et du fioul depuis quelques années, et en particulier en 2018. L'activité Biomasse Thermique France contribue à 19,4 millions d'euros de cette hausse. Donc c'est le principal facteur d'explication. 14,4 millions d'euros au niveau du chiffre d'affaires sont liés à la mise en service de nouvelles capacités, 18,6 millions à l'évolution de nos prix fixes, et j'en profite pour signaler que sur ces 18,6, en réalité, on est à plus 22 d'évolution positive et moins 4 d'évolution négative sur bois rouge. Certains d'entre vous savent que sur nos centrales les plus anciennes, nous avons, au bout d'une quinzaine d'années, à l'issue du remboursement de la dette, des baisses contractuelles de revenus et de prix fixes, qui figurent d'ailleurs en appendice de cette présentation. Et en 2018, on en a eu une sur bois rouge de 4,2 millions. Cette année, en 2019, il y a 12 millions de baisses de prix fixes. Donc il ne faut pas les oublier dans vos modèles. Si on continue sur le thermique, rien à signaler sur la partie dispo bonus-malus, -1,3, relativement marginal. On a parlé de la production qui était en baisse. Ça se traduit par un effet volume de moins 18 qu'on ne retrouvera pas sur l'EBITDA. Et autre biomasse thermique France, plus 5,7, c'est également lié aux avenants iodés, l'augmentation du prix proportionnel de nos contrats. Donc sur le Brésil, un effet négatif de moins 3,2, mais quand on regarde le détail, on voit tout de suite que c'est lié à un effet taux de change de moins 3,5. Pour ce qui est du volume, on est en légère baisse à 0,9 à cause de la situation de Rio Pardo, et ceci est compensé par un effet prix favorable de plus 1,2. Donc on finit 2018 avec un chiffre d'affaires de 428,3 millions d'euros. L'EBITDA, lui, est en hausse significative de 18%. On a bénéficié de 2,4 millions d'exceptionnels liés au règlement d'un litige URSSAF en cours d'année. L'activité biomasse thermique contribue pour 25,9 millions de cette hausse. On retrouve les grandes briques que j'ai mentionnées. Le Brésil, moins 1,9. Autre, c'est le solaire et la holding. La holding a très bien tenu ses coûts. Donc, on a une variation positive de plus 1,1. Et l'EBITDA de fin d'année s'établit à 162,6 millions d'euros, dont 2,4 d'exceptionnels. Le résultat net part du groupe est également en hausse de 18% comparé à N-1. Et si on regarde hors exceptionnel, il est en hausse de 37%. Donc c'est une hausse très importante. Il y a une petite brique qui est la première qu'on a mentionnée, 0,1 exceptionnel. Alors ça, c'est le 0,1, c'est le net. Dans cette brique, il y a des mouvements positifs et négatifs. Frédéric a parlé de la dépréciation d'actifs de de Rio Pardo, et on se garde le droit, si la situation se redresse et que la production réaugmente, de reprendre la provision que l'on a constituée. Il y a également des reprises de provisions de type fiscal. On a eu gain de cause sur un redressement fiscal sur une taxe intérieure sur la consommation de charbon. Et il y a également, et on en avait parlé au premier semestre, les produits exceptionnels liés à la restructuration et au refinancement de notre activité solaire dans l'océan Indien, hein, qui s'élevait à un peu plus de 2 millions d'euros. Voilà. Je ne vais pas recommander ces briques qui sont similaires à celles de l'EBITDA. Un mot peut-être sur les charges financières, et vous verrez le détail en appendice. On a des charges financières en légère baisse alors que notre dette est en hausse. Pourquoi ? Bah, pour plusieurs raisons. Un, ça intègre 3 millions de produits exceptionnels liés à la restructuration de l'océan Indien. 3 millions au niveau EBITDA, 2 millions au niveau RNPG. Et une baisse de notre charge financière au Brésil, compte tenu de des taux qui ont fortement baissé par rapport à l'année précédente. Notre trésorerie est stable à 95 millions d'euros. C'est la bonne nouvelle, compte tenu de tous les investissements que l'on a réalisés. On a un free cash flow toujours élevé à 97 millions d'euros. Ce free cash flow a été impacté défavorablement par une variation de BFR de moins 26 millions d'euros. Alors, c'est rien, hein. C'est juste lié à un délai de paiement d'EDF en fin d'année qui, plutôt que nous payer avant le 31 décembre, a payé le 2 et le 4 janvier. Hein, c'est un impact assez important sur notre free cash flow. Notre free cash flow normatif, il n'est pas de 97, il est plutôt de 120. On a émis et levé 179 millions de nouvelles dettes sur les IED, sur Galion, sur la fin de la turbine à combustion Saint-Pierre. Une des informations importantes de ce petit graphique, quand vous regardez la colonne emploi, c'est le montant des investissements de développement, y compris l'acquisition d'Eneco, qui s'élève à 178 millions d'euros. On est très au-dessus de notre rythme de croisière annoncé de 100 millions d'euros d'investissement de développement par an. L'année a été très chargée, on vous a décrit tous les projets. Et c'est pour ça que ça va se traduire en 2019 et en 2020 par une croissance non négligeable. Notre bilan, une dette nette qui s'établit à 747 millions d'euros en augmentation par rapport aux 613 de 2017. Vous noterez que notre dette projet est en augmentation en lien avec tous les projets TAC, Saint-Pierre, IED et Galion, et notre dette corporate est en augmentation temporaire parce que pour financer l'acquisition d'Eneco, nous avons tiré sur nos lignes revolving court terme. Nous sommes en train de refinancer cette acquisition et nous allons loger au niveau d'Eneco de la dette projet sans recours qui nous permettra de repayer ces lignes court terme. Les caractéristiques de notre dette sont toujours aussi solides, je dirais. 87% de dette couverte ou à taux fixe, donc on est très peu sociable à la hausse des taux. Une durée de vie résiduelle de 11 ans, un taux de moyen d'intérêt du groupe qui continue à baisser. Il est 3,6 aujourd'hui sur l'ensemble du groupe, 3,4 en France et 9,2 au Brésil. Et enfin, et c'est très important, l'essentiel de notre dette est de la dette projet sans recours sur Albioma, sur l'actionnaire, sauf la dette du Brésil et la dette des projets en construction. Le ratio dette nette sur EBITDA 12 mois glissant est de 4,6. On avait annoncé qu'au pic de notre cycle d'investissement, on atteindrait probablement les 5. On est au pic de notre cycle d'investissement et on est assez en deçà des 5, on est à 4,6. Les prochaines années seront également, on sera probablement dans un tunnel entre 4 et 5 et on n'a pas prévu de dépasser les 5 au cours des prochaines années. Dividende. Nous allons proposer un dividende de 0,65 euros par action qui sera en hausse de 8%. Avec toujours la possibilité de prendre soit tout en cash, soit moitié en cash, moitié en action. Et je rappelle qu'il y a une prime de fidélité pour tous les actionnaires inscrits au nominatif depuis une période d'au moins 2 ans, ce qui permet d'avoir une majoration de son dividende de 10%, ce qui n'est pas négligeable. L'objectif, et Frédéric en reparlera, c'est de continuer à proposer un dividende en croissance sur les prochaines années. Les objectifs à court terme 2019, On annonce un objectif d'EBITDA de 168-178 millions d'euros, un objectif de résultat net part du groupe de 38-44. Quelques éléments de contexte. Le premier, c'est que cette année, nous aurons une contribution en année pleine de Galion 2. C'est ce qui explique la croissance par rapport à 2018, puisqu'il n'y avait qu'un trimestre de contribution, et une contribution en quasi-année pleine de Saint-Pierre qui a été mise en service il y a quelques jours. Les deux baisses de prix fixes qui représentent 12 millions d'euros, j'en ai parlé un peu plus tôt. Donc ça va en moins par rapport à l'année dernière. Et enfin, il ne faut pas le négliger, c'est pour ça que notre résultat net part du groupe sera compris entre 38 et 44. Nous allons avoir une augmentation de nos amortissements et de nos charges financières en lien avec les IED et les activations d'immobilisation liées aux réceptions de tranches en cours.
Alors, les perspectives, une nouvelle façon de présenter cette diapositive que vous connaissez pour certains d'entre vous. Elle dit quoi, cette diapositive? Si on regarde les dernières années, depuis 2013, on a engagé environ 790 millions d'euros dans les projets qu'on vous a déjà commentés au cours de cette présentation, les IED, les nouveaux investissements, la taxe Saint-Pierre, le Galion, le solaire, le Brésil. Et donc ce sont des investissements significatifs qui vont produire, et vous le verrez sur le transparent d'après, et c'est une nouveauté, tous ces investissements vont produire avec l'effet de décalage, puisque on est sur des métiers à temps long, donc il faut quand même, entre l'engagement et la contribution de chacun de ces investissements, il y a besoin de construire les unités et de les mettre en service, qui vont produire donc en année pleine, en 2020, de l'ordre de 200 millions d'EBITDA. Cette croissance qui est forte au cours des dernières années n'est pas terminée. Et vous voyez que sur la période 2019-2023, on va continuer à engager des montants significatifs. On donne une fourchette 500-700 millions d'euros sur les mêmes briques que celles que vous avez à l'écran à gauche, hein, sur le socle de l'existant, donc les investissements de conversion. On en a déjà un petit peu parlé. Des nouvelles capacités, du solaire, avec l'accélération liée à l'investissement dans Eneco, et du Brésil ou d'autres pays demain. Donc tous ces investissements, à la fois engagés, qui ont été rentables, et vous le verrez, c'est la traduction EBITDA 2020, vont produire et vont produire des effets sur l'EBITDA et le RNPG. Et évidemment, on s'inscrit dans une stratégie de croissance, et je pense que c'est le message de cette diapositive à retenir, qui est souvent... je pense oublié de certains investisseurs. Nous sommes une société de croissance. Vous voyez les chiffres, plus 18% sur 2018. En 2019, on annonce encore des agrégats en croissance. Et en 2020, on s'attend également à une croissance. Donc pourquoi investir dans Albioma? C'est la conclusion de cette présentation. Nous sommes au cœur de la transition. Nous sommes un futur pure play, je vous ai dit, on décarbone le mix. Donc nous allons sur nos deux jambes continuer à produire de l'énergie de plus en plus renouvelable avec de la biomasse et du solaire. Nous avons des perspectives en 2020 avec un EBITDA attendu de l'ordre de 200 millions d'euros. Et nous avons une politique de croissance du dividende avec un objectif de distribution que l'on maintient de l'ordre de 50% du résultat net hors exceptionnel. Voilà. Merci à tous pour votre attention et à nouveau bravo aux équipes pour la qualité des résultats 2018. Je vous propose de vous laisser la parole si vous avez des questions. Oui, Emmanuel.
On va peut-être donner un micro. Comme j'en ai deux, je peux en donner un.
Oui, bonjour, Emmanuel Chevalier, CIC. J'avais quelques questions, s'il vous plaît. La première question, je voulais savoir sur les 500 à 700 millions d'euros d'investissement, est-ce qu'on pouvait en savoir un tout petit peu plus sur le poids des conversions? Il y a 9 tranches à convertir, ça paraît déjà assez important Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est quand même un montant qui se rapprocherait déjà du bas de fourchette. Hein. Donc un peu de répartition là-dessus. La deuxième question, je voulais savoir si on pouvait avoir un peu plus d'indications sur comment on passe de 2019 à 2020 en EBITDA. Qualitatif ou pas, mais même en partant du haut de fourchette à 178 millions d'euros, j'ai un tout petit peu de mal à trouver les 22 millions d'euros. Donc je voulais juste avoir quelques compléments d'informations là-dessus. Et c'est les deux principales questions pour l'instant. Merci.
Alors, tu veux que je prenne, Frédéric, ou...
Oui, mais je n'avais pas l'intention de trop répondre. Donc si tu veux ne pas répondre...
Non, mais je peux... Emmanuel, on va prendre la deuxième question. On ne va pas vous donner de chiffres et vous donner le bridge un an à l'avance, mais on peut donner quelques indications. Comment on passe de 2019 à 2020 ? En 2019, on finit nos investissements IED. Donc tout ce qu'on va réaliser en 2019 va contribuer en année pleine 2020. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, on a annoncé la signature d'un avenant conversion sur Albioma Caraïbes. On a commencé les travaux qui seront achevés au premier semestre 2020. Donc il y aura une contribution en partie sur l'année 2020. Troisième élément de réponse, vous avez noté qu'on avait racheté Eneco dans le solaire, qu'on était en train de mettre en service un certain nombre de centrales. Ces centrales vont contribuer en toute petite partie en 2019, normalement en année pleine en 2020. Donc voilà, ça c'est les trois grandes briques qui expliquent qu'il y a encore de la croissance après 2019. IED, conversion, solaire.
On ne s'interdit pas non plus quelque chose au Brésil.
Exactement.
Bon, déjà, on en a trop dit. Bon, c'était dans le marché. D'autres questions ?
Et sur la première question, très rapidement, on n'a pas communiqué sur les chiffres. Alors, Frédéric ne veut pas répondre, donc
non,
je vais répondre.
Je veux pas répondre. Alors, réponds pas.
La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas communiqué spécifiquement sur les montants de conversion qui ne sont pas négligeables, qui expliquent une partie de ces 500. 700, on a communiqué sur la première brique, les 70 millions de capex net sur Albioma Caraïbes.
Donc si on fait 70 fois 9, ça fait...
Il ne faut pas faire ça.
C'est pour ça que je voulais avoir un peu de précision.
Ce n'est pas aussi simple que cela. Et on communiquera le moment venu à chaque signature d'avenant sur les montants spécifiques.
Aurélie Barbeau, l'usine nouvelle. Vous avez parlé d'utiliser les déchets, les combustibles de déchets, CRS. On les voit pas dans les investissements. Est-ce que ça veut dire que vous nous avez dit que vous pouviez les brûler dans vos centrales? Donc est-ce que ça vient en remplacement du charbon, de la bagasse, de la biomasse, et où est-ce que c'est à l'étude?
Ce serait dans la première brique. On les voit pas dans les investissements parce qu'on n'a pas qualifié ces investissements de façon précise, mais dans la première brique, des investissements sur l'existant liés à la conversion. C'est là-dedans qu'on pourra imaginer mettre des investissements liés au CSR. Et c'est à l'étude, notamment à La Réunion, de façon plus avancée, sur notre site de Bois Rouge. Et la réflexion commence en Guadeloupe, en léger décalage par rapport au calendrier de La Réunion. Pourquoi la réflexion est à l'étude à La Réunion? Parce qu'à La Réunion, vous avez deux centres d'enfouissement de déchets, deux décharges, une au nord, une au sud. Et que la décharge du Nord, notamment, qui est à Sainte-Suzanne, à côté de laquelle, d'ailleurs, on a une installation de photovoltaïque, elle est pleine en février 2021. Et celle du Sud, à Saint-Pierre, sera pleine peu de temps après. Donc la problématique de la gestion des déchets sur ces îles est prégnante. Et il faut que les collectivités trouvent une solution. Juste pour donner un ordre de grandeur, à La Réunion, il y a à peu près 800 000 personnes. Hein, et vous avez dans le nord un bassin qui génère environ 140 000 tonnes d'ordures ménagères et dans le sud, environ 240 000 tonnes d'ordures ménagères. Donc vous avez 400 000 tonnes à peu près d'ordures ménagères par an à traiter avec deux décharges qui ferment.
Jean-François Rangeondo, BHF. Trois questions. La première, on a effectivement une forte progression de 18% de l'EBITDA en 2018, 29% pour le RO. Légère baisse des dotations d'amortissement. Qu'est-ce qui explique en fait cette tendance-là, alors que On aurait pu s'attendre déjà à une augmentation des amortissements du fait du démarrage de Galion 2. Première question. Deuxième question. Alors, pourquoi sur les objectifs 2019, la marge d'escalier paraît beaucoup moins importante par rapport à 2020 et par rapport à 2018, puisqu'on a finalement une guidance d'EBITDA qui est légèrement en hausse par rapport aux 162 millions de 2018. Est-ce que c'est, malgré Galion 2 plein d'impact, malgré l'attaque, est-ce que c'est principalement lié à l'effet de la baisse des primes PIX de 12 millions ou est-ce qu'il y a d'autres éléments à intégrer? Et dernière question, est-ce qu'on peut revenir sur Rio Pardo? Et donc vous avez parlé de provisions pour prendre pour partie les risques. Quels sont les risques potentiels éventuellement qui pourraient encore être pris en compte et impacter vos objectifs 2019 si d'aventure il y avait un problème avec la sucrerie au Brésil dans cette région? Merci.
Alors, les amortissements, tu veux répondre, Julien?
Les amortissements sont en augmentation hors exceptionnel. L'année dernière, nous avions eu des reprises exceptionnelles. Donc, hors exceptionnel, bien évidemment, compte tenu de tous les travaux IED, toutes les nouvelles immobilisations, nos amortissements, nos dépréciations sont en hausse hors exceptionnel.
Sur la croissance 2019 par rapport à 2018, je crois que votre compréhension est bonne. Hein, c'est-à-dire que y a les effets de hausse du fait de l'année pleine Galion et Saint-Pierre. Et il ne faut pas oublier les baisses de primes fixes. Donc l'un dans l'autre, il n'y a pas d'événement autre négatif qu'on aurait intégré dans la progression de l'EBITDA. Hein, on est sur du mécanique pur. Quant à Rio Pardo, c'est difficile d'avoir une boule de cristal. Hein. Les processus de redressement judiciaire au Brésil sont très longs. Donc on a adopté une logique de prudence qui consiste à déprécier partiellement cet actif. Comme le disait Julien, on se réserve le droit de reprendre la provision si jamais les choses devaient s'améliorer. On ne connaît pas l'issue du processus de redressement, mais une des issues possibles, c'est la reprise du site par un autre industriel du secteur, auquel cas ça pourrait aller assez vite et repartir dans le bon sens, mais c'est extrêmement difficile à prévoir. D'autres questions ? Oui, Madame ?
Bonjour, Daba Crostenoir. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions sur le niveau de taux d'imposition à prévoir l'année prochaine et les amortissements incorporels, si oui, si...
Alors, le niveau d'imposition normatif de 2018 est de 33%. À terme, M. Macron a annoncé que le taux d'imposition serait de 25% à compter de 2022. Donc en 2019, si c'est votre question, quand vous dites l'année prochaine, en 2022, on s'attend à un taux d'imposition normatif très légèrement inférieur aux 33 de cette année.
Le bioéthanol, en fait, là, il procède de la distillation des mélasses. Donc, c'est après production du rhum. Et donc, il n'y a pas de conflit d'usage, si vous voulez. Ces mélasses, en fait, jusqu'à ce qu'on décide de les transformer en éthanol pour les mettre dans nos turbines, elles étaient réexportées sur l'Europe. Donc, elles quittaient l'île sans valorisation sur l'île. Donc, il n'y a pas de conflit d'usage, en l'occurrence. Et c'est plutôt sain d'un point de vue économie circulaire que d'avoir trouvé un débouché local pour une production locale.
Est-ce que vous pouvez nous donner vos ambitions dans le photovoltaïque en métropole? C'est quoi les ambitions en capacité installée?
Non, je ne peux pas vous les donner. D'autres questions auxquelles je puisse répondre? Bien, bah, écoutez, merci à tous. Bonne journée et à la prochaine fois. Ah oui, il y a un café pour ceux qui le souhaitent, juste derrière cette porte-là.